Bonjour et bon mercredi, c'est le 22 février 2017. Aujourd'hui, c'est Hélène Denis qui vous parle et on est ensemble une bonne heure 30 avec Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et au choix musical. Comment vas-tu? Allez-vous?
Bonjour, bonjour.
Est-ce que je le tutoie? Est-ce que je le vous vois? Non, on se vous voit à la radio, nous.
Nous allons bien.
Oui, vous allez bien, tant mieux.
En ce 22 février, journée mondiale du scoutisme.
Ah oui, salut à tous les scouts et à Baden-Powell.
Eh oui, alors pour la petite histoire, le fondateur, Lord Robert Baden-Powell, convaincu que l'on pouvait apporter énormément à des jeunes en leur proposant de devenir des acteurs de leur propre éducation, a jeté les bases du scoutisme lors d'un premier camp devenu célèbre dans l'île de Brown Sea. Faire vivre des jeunes en autonomie avec un jeune à leur tête, les amener à se prendre en charge dans le respect d'un code commun, la loi scout.
Avez-vous été un scout, vous, Jean-Sébastien?
Non, mais en vieillissant, c'est peut-être quelque chose qui pourrait m'intéresser dans une prochaine vie. Non, mais il n'est jamais trop tard pour rejoindre un ordre. Non, mais ce sont des belles valeurs, mais non, je n'ai pas fait partie des scouts en étant jeune.
D'accord.
Événement marquant pour un 22 février. Il faut savoir que le 22 février est une date très populaire pour la consécration des papes. On parle en 1198 d'Innocent III qui devient le 174e pape. En 1281, Martin IV. En 1288, Nicolas IV. En 1550, Jules III. Et en 1775, Pie VI qui lui devient le 248e pape.
Ah oui?
Donc, je ne sais pas pourquoi cette journée-là est plus propice que d'autres, mais elle est populaire dans la papauté. Ensuite, on va en 1813. En réplique à l'attaque de Brockville, des Canadiens traversent le Saint-Laurent et prennent Ogdensburg, État de New York, d'où ils repartent avec 74 prisonniers américains, 12 canons et autres butins. 1819, la Floride est cédée aux États-Unis par l'Espagne. 1868, le Sénat des États-Unis initie la procédure d'impeachment contre le président Andrew Johnson pour la violation du Tenure of Office Act impeachment qui a été employé notamment dans le cas de Bill Clinton pour avoir menti au Sénat et qui, on ne sait pas la prochaine fois que ça va arriver. 1974, toujours un 22 février, le Pakistan reconnaît l'indépendance de son ancienne province orientale, devenue le Bangladesh. 1977, à Washington, le premier ministre Trudeau, Pierre Elliott, est devenu le premier dirigeant canadien en poste à parler devant le Congrès américain. 2004, à Montréal, au gala des prix Jutra, le film Les Invasions barbares de Denis Arcand reçoit 3 prix, dont celui du meilleur film québécois. On en parlait il y a quelques jours également, qui avait remporté plusieurs prix, notamment des Césars. En 2006, on fait un saut dans le domaine olympique. Jeux de Turin, la Canadienne Chandra Crawford remporte la médaille d'or du sprint de ski de fond. La patineuse Cindy Klassen limite aux 1500 mètres. En 2010, les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moore sont sacrés champion olympique de danse sur glace aux Jeux de Vancouver. Ensuite, en 2008, on revient au cinéma. Marion Cotillard remporte le César et l'Oscar 2 jours plus tard de la meilleure actrice pour son interprétation d'Édith Piaf dans le film La Môme. En 2012, Québec donne le feu vert au déploiement de radars photographiques sur l'ensemble de la province. Il y avait déjà des projets pilotes depuis quelques années, mais c'est en 2012 que ça s'est déployé à plus grande échelle. Les naissances en ce 22 février, j'ai été surpris, mais quand même plusieurs gros noms, notamment le premier président des États-Unis, George Washington, en 1732, et on fête aux États-Unis aujourd'hui le President's Day en l'honneur de M. Washington et également d'Abraham Lincoln, qui a eu son anniversaire il y a quelques jours, donc 22 février, President's Day aux États-Unis. Également, les anniversaires de naissance du philosophe allemand Arthur Schopenhauer. En 1788, en 1810, la naissance du compositeur polonais Frédéric Chopin. En 1864, l'écrivain français Jules Renard. En 1900, le cinéaste espagnol Luis Buñuel. Les décès en 2002 du créateur de Bugs Bunny et autres personnages de dessins animés, M. Chuck Jones. 1987, décès de Andy Warhol, peintre et cinéaste américain. Et finalement, et pour clore cette petite chronique, décès le 22 février 1512 du navigateur italien Amerigo Vespucci.
Merci Jean-Sébastien. « À la une de la presse, j'ai craqué. Jocelyne Lisotte, atteinte d'Alzheimer, est trouvée sans vie lundi dans sa chambre d'un CHSLD. S'était vue refuser l'aide médicale à mourir, selon sa famille. Accusée de meurtre non prémédité, son conjoint Michel Cadotte l'aurait-il tuée par compassion? La presse à Washington, la traque aux clandestins est ouverte. Ottawa songe à renforcer la sécurité à la frontière. Et à la une de la presse, dans la pause oxygène musclée sans s'excuser, les adeptes féminines de CrossFit sont régulièrement victimes de critiques sur leur physique. Quatre athlètes s'exposent et se confient. Le conjoint aurait agi par compassion. Michel Cadotte, un résident de Montréal-Nord, âgé de 55 ans, a été accusé du meurtre non prémédité de Jocelyne Lisotte hier après-midi au Palais de justice de Montréal. Plusieurs membres de la famille de la victime ont assisté à la comparution par vidéoconférence. Jocelyne Lisotte a été retrouvée en arrêt cardio-respiratoire vers 13h30 lundi dans la chambre qu'elle occupait au centre d'hébergement Émilie-Gamelin, au centre-ville de Montréal. 40 minutes plus tôt, Michel Cadotte écrivait sur Facebook ses nombres funèbres 5-06-56 à 20-02-2017, représentant vraisemblablement les dates de naissance et de mort de sa conjointe. 3 minutes plus tard, il ajoutait sur Facebook avoir craqué et avoir consenti à sa demande d'aide à mourir, un message troublant qui a aussitôt alarmé ses proches. Il a été arrêté dans l'heure qui a suivi ces lieux du drame. C'était une délivrance pour elle, on comprend son geste, mais selon la justice, il n'avait pas le droit de le faire, dit François Cadotte, neveu du suspect. Les propos des deux fils de Jocelyne Lisotte sur Facebook semblaient renforcer la thèse du meurtre par compassion, une motivation toutefois absente du code criminel. L'aide médicale à mourir n'est généralement pas accordée aux patients souffrant de la maladie d'Alzheimer, notamment parce qu'ils sont incapables de donner leur consentement, soutient le docteur Alain Nau, un omnipraticien du CHU de Québec qui a prodigué l'aide à mourir à de nombreux patients depuis l'entrée en vigueur de la loi provinciale en décembre 2015. Condition pour obtenir l'aide médicale à mourir, selon la loi, être une personne assurée au sens de la loi sur l'assurance maladie, être majeur et apte à consentir aux soins, être en fin de vie, être atteint d'une maladie grave et incurable, avoir une situation médicale qui se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités, éprouver des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions que la personne juge tolérables. La personne doit, de manière libre et éclairée, formuler pour elle-même la demande d'aide médicale à mourir au moyen du formulaire prescrit par le ministre. Ce formulaire doit être daté et signé par cette personne en présence de témoins. Ottawa songe à renforcer la sécurité à la frontière. Le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodall, a indiqué hier à la Chambre des communes que la Gendarmerie royale du Canada, la GRC, l'Agence des services frontaliers du Canada et le ministère de l'Immigration planchent sur une série de mesures visant à composer avec l'arrivée de ces immigrants qui tentent de trouver refuge au Canada. Si ces trois organisations jugent qu'il faut augmenter les effectifs canadiens à la frontière afin de protéger l'intégrité de la frontière, et appliquer les lois, le gouvernement Trudeau se montre tout à fait ouvert à examiner cette option, a indiqué le ministre Goodall. Alors qu'il affirmait le mois dernier que le Canada continuerait d'être une terre d'accueil pour les réfugiés qui fuient la guerre et la persécution, après l'adoption par le président Donald Trump d'un décret interdisant aux ressortissants de 7 pays à majorité musulmane d'entrer aux États-Unis, le premier ministre Justin Trudeau a indiqué hier qu'il était important de s'assurer que les lois canadiennes soient respectées de manière à ce que les Canadiens fassent confiance au système d'immigration. Mais pour l'heure, le gouvernement Trudeau rejette la demande du Parti conservateur de refouler à la frontière américaine les immigrants qui cherchent à entrer plus rapidement au pays en faisant fi des règles en matière d'immigration. 452, c'est le nombre de personnes qui ont fait une demande de statut de réfugié à la frontière du Québec au mois de janvier seulement, selon l'Agence des services frontaliers. Migrants clandestins, la Maison-Blanche sonne la charge. La Maison-Blanche est passée hier de la parole aux actes des directives émises par le secrétaire à la Sécurité intérieure compte rendre la vie dure aux millions de migrants sans statut aux États-Unis. Fin des exemptions à l'expulsion, renvoi prioritaire des criminels et explosion du nombre d'agents d'immigration. Ces nouvelles annonces font écho aux priorités de campagne du président américain Donald Trump et alerte de nombreuses familles d'immigrants et les organismes qui les soutiennent. Lors d'une conférence de presse pour expliquer les directives émises hier par le secrétaire à la Sécurité intérieure, John Kelly, un responsable du département a confirmé qu'aucune catégorie de migrants sans statut, hormis les enfants de ces immigrants qui font l'objet d'un moratoire sur les renvois, ne seront à l'abri d'une expulsion. Les syndicats s'affrontent pour 187 000 membres. Derrière leur unité de façade, les syndicats du Québec se livrent ces jours-ci une lutte sans merci pour s'attirer les votes de près de 200 000 travailleurs du secteur de la santé et les dizaines de millions de dollars qu'ils versent annuellement en cotisations. Une première depuis 2003. Le scrutin, conséquence directe des fusions d'établissements voulues par le ministre Barrette, prend fin demain et pourrait transformer les rapports de force dans ce secteur névralgique. La controverse de la campagne, une publicité télévisée de la Fédération interprofessionnelle de la santé qui invite les infirmières à rejoindre une organisation qui leur est consacrée. Un choix s'offre à l'infirmière au centre de la capsule, un ascenseur rempli d'individus divers et suspects et un deuxième qui ne transporte que des infirmières souriantes. La capsule illustre la ligne de faille de la campagne, soit l'opposition entre les centrales syndicales à l'effectif large et les syndicats spécialisés qui ne regroupent qu'une catégorie d'employés. C'est le cas de la FIC, composée uniquement d'infirmières, et de l'APTS, qui ne regroupe que des professionnels. La publicité a mis en furie les centrales syndicales qui y voient une insulte envers leurs membres. C'était particulièrement méprisant à l'égard des autres catégories d'emplois, a affirmé Jean Lacharité de la CSN. On s'est senti indignés, nos membres se sont sentis indignés par ce dédain, a dénoncé Daniel B. Lafrenière de la Centrale des syndicats du Québec, même portrait au syndicat canadien de la fonction publique. Il n'était pas obligé de faire ça, a fait valoir le porte-parole Serge Morin. La présidente de la FIC, Régine Laurent, a dit ne pas comprendre ces critiques. C'est un peu plate pour leurs membres qu'ils aient pu penser que leurs membres étaient représentés dans cette pub. Montréal puisera 250 000 $ dans son fonds pour imprévus afin d'organiser des cérémonies protocolaires le 17 mai pour souligner son 375e anniversaire de fondation. L'opposition dénonce cette décision, estimant qu'une telle dépense aurait dû être prévue dans le budget de 111 millions des célébrations. Cette journée sera l'une des plus importantes et des plus chargées de l'année, la Ville, dans un document soumis aux élus.
Ses parents, ses amis, ses femmes qu'on affectionne, avec lesquels on dort, on dîne, on parle au téléphone. Souvent quand nos regards se croisent, y a comme une chaleur. mais de là à en faire des phrases, trop de pudeur, trop de pudeur. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, par peur de les gêner, qu'on les aime. On ne leur dit jamais assez que sans eux, sans elle, on ne serait même pas la moitié de nous-mêmes. Avant de nous dire au revoir, marcher à l'ombre, avant que sur notre histoire le rideau tombe. Je veux déclarer à tout ce petit monde qui m'entoure, la vie serait dorson sans vous autour, vous tous autour. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, par peur de les gêner, qu'on les aime. On ne leur dit jamais assez que sans eux, sans elle, on ne serait même pas la moitié de nous-mêmes. Qu'y a-t-il de plus important, la raison ou les sentiments? On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, on ne leur dit jamais assez qu'on les aime.
Valérie Carpentier qui reprend cette pièce de Louis Chédid. On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime qu'on les aime.
Le Devoir maintenant à la une, arrestation de la militante Azizi. Québec demande à Ottawa de sursoir à son expulsion vers l'Iran. Université de Sherbrooke, les professeurs s'inquiètent pour leur droit de parole. Le cinéma Rapaillé, le réalisateur Dominique Gagnon et sa tétralogie américaine au rendez-vous du cinéma québécois. Dominique Gagnon dit « Mon but n'est jamais de ridiculiser, mais de contextualiser. J'y vois une forme d'archéologie numérique. » Culture, le brûlot anti-Front national, « Chez nous », le film qui agite la présidentielle française. Avis public, des médias défendent la transparence. États-Unis, 11 millions de clandestins « expulsables », entre guillemets. Sièges sociaux, Québec mise sur les allègements fiscaux. Texte de Lisa Marie Gervais. Nous voyons une photo qui prend une bonne part du Devoir. Madame Azizi accompagnée de sa fille Sahar Bahrami. La militante iranienne qui devait être expulsée le 28 février prochain a été arrêtée mardi par l'Agence des services frontaliers du Canada pour motif de risque de fuite. L'agent au dossier soupçonnait que Rogayeh Azizi Mirma Aleh, qui craint d'être détenue et emprisonnée à son arrivée en sol iranien, ne se présentera pas à l'aéroport Trudeau le jour de son expulsion mardi prochain, a rapporté son avocate Maître Stéphanie Valois. Aussitôt, des personnes en autorité se sont mobilisées. La ministre québécoise de l'immigration, Kathleen Veil, a demandé à son homologue au fédéral, Ahmed Hussein, de permettre à Mme Azizi de rester, d'un point de vue humanitaire. On fait de même au fédéral. Le député libéral Marc Garneau, élu dans la circonscription Notre-Dame-de-Grâce-Westmount, où réside Mme Azizi, et la députée néo-démocrate Hélène Laverdière, qui devait organiser d'urgence une conférence de presse aujourd'hui. Le maire de Montréal, Denis Coderre, et le député de Québec solidaire, Amir Kadir, ont également tenté de faire bouger le dossier. En larmes, Sahar Bahrami, la fille de Mme Azizi, a confié au Devoir qu'elle était en état de choc. Je suis vraiment inquiète. Ma mère a dit qu'elle avait une douleur à la poitrine et a besoin de ses médicaments. Elle explique que sa mère, qui a déjà été emprisonnée et torturée dans les années 80 parce qu'elle militait contre le régime, sera en proie à un grand stress dans le centre de détention d'immigrants de Laval où elle a été emmenée. Elle ne supportera pas d'être en prison. Selon Maître Valois, la loi prévoit que sa cliente doit passer devant la section d'immigration de la Commission d'immigration et du statut de réfugié du Canada dans les 48 heures suivant son arrestation, donc possiblement jeudi. Le commissaire décidera s'il y a lieu de prolonger sa détention jusqu'au jour de son expulsion. Madame Azizi est arrivée avec un visa de visiteur en 2012 pour vivre auprès de sa fille. Ses efforts pour régulariser sa situation n'ont jusqu'ici pas porté leurs fruits. L'attaché de presse du ministre Ralph Goodale a indiqué que ce dernier avait le pouvoir discrétionnaire de sursoir à un renvoi, mais que le pouvoir de conférer un statut ou un permis de séjour revient au ministre de l'Immigration, a dit Scott Bradley. Université de Sherbrooke, les professeurs s'inquiètent pour leur droit de parole. Ainsi, la professeure Geneviève Paquette de la Faculté d'éducation s'est vue confirmer lundi par la direction de l'université qu'elle n'était pas autorisée à se présenter aux travaux du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur à l'occasion d'une des quatre journées de réflexion sur les violences à caractère sexuel sur les campus du Québec. Ces travaux avaient lieu hier à l'Université de Sherbrooke. Madame Paquette est reconnue comme une experte en ce domaine et avait été invitée par le gouvernement à présenter son savoir en la matière. Elle a eu beau arguer auprès de l'université qu'elle pouvait très bien se présenter à titre de simple citoyenne. Le département des ressources humaines lui a finalement confirmé par lettre qu'elle était interdite de séjour sur le campus pour cette rencontre gouvernementale. Selon Marc Frappier, vice-président du syndicat des professeurs, l'université n'a aucune raison de priver ses membres de leur droit de parole à titre de citoyen. C'est comme si la direction considérait que le campus était semblable à un centre commercial et qu'on pouvait en interdire l'accès. Or, l'université est un espace public payé par des fonds publics et voué à la discussion. Nous, on ne veut pas empêcher les gens de discuter. Répondre aux questions des étudiants portant sur la grève serait motif à poursuite, selon la direction de l'université. L'ancienne procureure en chef de la commission Charbonneau, Sonia Lebel, a confirmé mardi qu'elle devenait directrice adjointe du cabinet de François Legault de la coalition Avenir Québec, la CAQ, affirmant qu'elle voulait ainsi empêcher que les travaux de la commission tombent dans l'oubli. Ni elle, ni M. Legault n'ont exclu qu'elle devienne éventuellement candidate de la CAQ en vue des prochaines élections en 2018. Mme Lebel, qui a aussi été pendant 25 ans procureure de la Couronne, entend s'intéresser, entre autres, à la question du financement de la CAQ et du financement des partis politiques de façon plus large. Elle a aussi précisé qu'à titre de procureure travaillant pour la Commission, elle était liée par le secret professionnel, donc elle ne pourrait se servir d'informations qu'elle aurait reçues pour aider politiquement la CAQ. Et toujours concernant l'arrivée de Mme Lebel au sein de la CAQ, il y a une caricature dans Le Devoir d'aujourd'hui de Garnotte. Alors, François Legault, on le voit, tenant une Bible et Mme Lebel qui a une main dessus et qui dit « Je, Sonia Lebel, jure de ne pas trahir la CAQ pour devenir ministre chez les libéraux. » Et puis en dehors de la bulle, point de suspension. Tu crois vraiment que c'est nécessaire? Et derrière la vitre, derrière la fenêtre, trois personnes, Dominique Anglade, Gaétan Barrette, Sébastien Proulx, qui observent la scène, et Dominique Anglade qui tient une pancarte sur laquelle est écrite « Ministère de la Justice », point d'interrogation. La motion conservatrice dénonçant toutes les discriminations religieuses, mais sans utiliser le mot islamophobie, a été défaite hier par la Chambre des communes. La motion exhortait le Parlement à condamner toute forme de racisme systémique, d'intolérance religieuse et de discrimination à l'égard des musulmans, des juifs, des chrétiens, des sikhs, des hindous et des autres communautés religieuses. Les conservateurs ont reçu l'appui des bloquistes, des néo-démocrates et de la chef du Parti vert, 126 voix au total, mais pas celui des libéraux, 165 voix. Les libéraux dénoncent la motion conservatrice car, bien que très similaire à la leur, elle ne mentionne pas nommément l'islamophobie. Les libéraux font valoir que son adoption aurait empêché l'adoption de la leur ce printemps parce qu'elle aurait été jugée redondante. Une délégation du Forum musulman canadien était d'ailleurs à Ottawa mardi pour encourager les élus à ne pas jouer de jeux politiques sur leur dos et à appuyer seulement la motion libérale. L'espérance de vie des Canadiennes devrait atteindre 87 ans en 2030 contre près de 84 ans pour les Canadiens, permettant au pays de continuer à figurer au top 10 mondial. Les Sud-Coréennes pourront pour leur part espérer la plus grande longévité mondiale en 2030, avec une espérance de vie à la naissance de plus de 90 ans, selon une étude publiée dans le journal médical The Lancet mardi. Les Canadiennes figurent actuellement au 8e rang mondial. Elles devraient passer au 10e rang en 2030. Les Canadiens, eux, devraient passer de la 5e place mondiale en 2010 à la 4e en 2030. Après avoir été critiquée pour sa retenue dans le dossier de la grève des juristes de l'État, la bâtonnière Claudia Prémont a écrit mardi au premier ministre pour lui demander d'intervenir pour régler le conflit. « Je vous demande, au nom du barreau du Québec, d'initier le règlement du conflit », écrit Maître Prémont dans une lettre. Le barreau estime que la grève persistante des juristes de l'État entraîne des conséquences déplorables qui minent la saine administration de la justice. Les doutes soulevés quant à l'indépendance professionnelle des juristes de l'État minent la confiance du public envers notre État de droit. Malgré l'appel lancé au premier ministre, le barreau ne prend pas position sur les enjeux de la négociation en tant que tel. Madame Prémont s'attarde surtout aux impacts de la poursuite du conflit.
Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty. Yes, you do. Times Square can't shine as bright as you. I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there if you get lonely. Give this song another listen. Close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Oh, it's what you do to me. 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 What you do to me. Hey there, Delilah. Times are getting hard, but just believe me, girl, someday I'll pay the bills with this guitar. We'll have it good. We'll have the life we knew we would. My word is good. Hey there, Delilah, I've got so much left to say. If every simple song I wrote to you would take your breath away, I'd write it all. Even more in love with me, you'd fall. We'd have it all. Oh, it's what you do to me. 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 1,000 miles seems pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'd walk to you if I had no other way. Our friends would all make fun of us, and we'll just laugh along, because we know that none of them have felt this way. Till I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same. Delilah, you be good and don't you miss me. Two more years and you'll be done with school, and I'll be making history like I do. You'll know it's all because of you. We can do whatever we want to. Hey there, Delilah, here's to you. This one's for you.
Américain Plain White Tees et la version orchestrale de leur succès Hey There Delilah.
À la une du Journal de Montréal, révélation sur les enquêtes internes, la police de Montréal demande l'aide de la SQ. Exclusif, il voulait convoquer des libéraux à témoigner. Luigi Coretti souhaitait avoir un procès. Les Canadiens de Montréal, une première victoire pour Julien. La Sûreté du Québec enquêtera sur le SPVM. Le SPVM demande l'aide de la Sûreté du Québec afin de faire la lumière pour certaines pratiques dénoncées à notre bureau d'enquête concernant les pratiques des affaires internes de la police de Montréal. C'est un texte signé Félix Séguin. Cela survient au lendemain de l'émission JE, au cours de laquelle d'ex-policiers montréalais ont affirmé que la division des affaires internes du service de police de la Ville de Montréal, le SPVM, fabrique de la preuve contre les policiers. M. Pichet s'est dit très préoccupé par ces allégations. M. Pichet, donc, il dit « Il y a certains faits troublants. Aussi, quand on regarde l'émission, toutes sortes de rencontres », a-t-il déclaré. Je vous dirais que tout de suite après l'émission, j'ai parlé à M. Martin Prudhomme, directeur général de la SQ, et question de transparence, je lui ai demandé de revoir toutes les enquêtes. Au moins trois, celle de M. DiFeo, celle de M. Caccione et celle de M. Roger Larivière, parce que les autres sont devant les tribunaux présentement. Je lui ai demandé de revoir toutes les enquêtes et aussi d'y inclure les faits nouveaux qu'on pourrait rapporter, dit Philippe Pichet, le chef du SPVM. Le directeur invite aussi, les intervenants qui ont participé au reportage de JE et qui souhaitent transmettre des informations à contacter la SQ à partir de maintenant. Choqués par ces dernières révélations, des policiers ont lancé une pétition hier pour dénoncer les pratiques du bureau chargé d'enquêter sur leur corps de métier. La pétition réaffirme que les policiers ont les mêmes droits fondamentaux que les citoyens ordinaires. Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a parlé hier soir au maire de Nicodère. Ils ont convenu de faire la lumière afin d'assurer la confiance dans nos institutions. Jacques Duval se fait à nouveau arnaquer. « J'ai l'impression que la fraude me court après », lance Jacques Duval. À la fin de l'année dernière, le célèbre chroniqueur auto de 82 ans a mis en vente sur le site Kijiji une montre Rolex de collection valant 13 800 $. Un homme très intéressé s'est présenté un vendredi soir à son domicile de Saint-Bruno de Montarville, sur la rive sud, avec un chèque certifié pour faire la transaction. L'histoire du fraudeur dans la jeune vingtaine lui a paru crédible. Il l'achetait avec son frère comme cadeau pour les 60 ans de son père. Le chèque avait l'air tellement vrai avec le nom de l'institution financière embossé, la signature du président. « Je ne me suis pas méfié », dit-il. Le lundi, quand M. Duval est allé encaisser son chèque, on lui a annoncé quelques heures plus tard qu'il s'agissait d'un faux. Il a porté plainte à la police qui garde un mince espoir de retrouver le voleur grâce à un téléphone de location. M. Duval a très bien fait de rencontrer l'acheteur en personne. « C'est ce que nous conseillons de faire », dit Christian Jasserand, directeur du service à la clientèle chez Kijiji. Mais lorsqu'un particulier vend un article d'une grande valeur comme une montre de collection de 14 000 $, le premier choix devrait être d'utiliser le système de paiement PayPal, une alternative sécuritaire car elle est reliée directement à une carte de crédit ou un compte bancaire. C'est la deuxième fois en moins de 3 ans que Jacques Duval se fait avoir. En 2014, il confiait avoir perdu environ 1,2 million de dollars à cause des malversations du vendeur d'assurance Jacques-André Thibault. Opération déglaçage sur certaines rivières. On a une photo de l'aéroglisseur NGCC de la flotte de la garde côtière canadienne qui s'est affairé hier à déglacer la rivière Châteauguay dans le cadre de l'opération printanière. L'intervention vise à éviter les inondations en brisant la glace qui se trouve à l'embouchure des rivières. La météo clémente des derniers jours et celle à venir a devancé cette opération annuelle. Sa mosquée vandalisée pour la 4e fois en 4 ans. Les fenêtres de la mosquée Tawuba, située à l'angle des rues Ontario et Folum à Montréal, ont été fracassées dans la nuit de lundi à hier. Cela porte à 4 le nombre d'actes de vandalisme commis contre ce lieu de culte en 4 ans, confirme l'imam Youssouf Fofana. L'imam ne veut pas faire de lien précipité avec l'attentat survenu au Centre culturel islamique de Québec le 29 janvier dernier, où 6 personnes ont été tuées alors qu'elles priaient. On ne veut pas spéculer, mais c'est sûr qu'on espère avoir des réponses puisque cette fois, un suspect a été arrêté contrairement aux autres actes de vandalisme, dit M. Fofana. M. Fofana affirme avoir toujours eu de bonnes relations avec le voisinage depuis 10 ans. À preuve, c'est grâce à la vigilance des voisins qu'on a pu arrêter un suspect. Gavin Johnson, 26 ans, a comparu au palais de justice de Montréal pour faire face à des accusations de méfaits sur un bâtiment religieux. Il restera détenu jusqu'à son enquête sur remise en liberté prévue demain. Il avait prédit le fléau du cellulaire au volant. L'ex-coroner aimerait maintenant une enquête publique. Ça réveillerait bien du monde. On saurait, on calculerait les décès, on écouterait des experts sur le sujet, a lancé Claude Paquin, qui a été médecin coroner à Montréal pendant 22 ans. Au début des années 2000, il est l'un des premiers coroners à avoir pointé du doigt le cellulaire au volant comme cause directe d'accidents sur les routes. Dès 2004, il a recommandé l'interdiction totale du cellulaire pour les conducteurs de véhicules en mouvement, afin de prévenir des décès évitables. Plus de 13 ans plus tard, le Dr Paquin avoue être peu étonné que les sanctions ne soient pas plus sévères pour les conducteurs fautifs. Mais il est plus que temps d'agir, dit-il. Les adultes sont de grands enfants, ça prend des lois coercitives. Si tu ne frappes pas fort, ça ne fera pas mal, a-t-il lancé. La preuve n'est plus à faire du danger public de ce type de communication, avait écrit alors le coroner dans son rapport. Une requête de 2 citoyens pour préserver la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques a été rejetée hier par une juge de la Cour supérieure. Depuis l'annonce par la Commission de la représentation électorale, la CRE, de l'abolition d'une circonscription montréalaise, Sainte-Marie-Saint-Jacques, plusieurs élus et citoyens se sont mobilisés. C'est le cas de deux électeurs, Pierre-Paul Saint-Onge et André Kerry, qui, invoquant l'urgence, demandaient au tribunal de se prononcer sur une ordonnance de sauvegarde pour suspendre le processus de délimitation des circonscriptions. Ils s'en prennent au processus suivi par la CRE, le jugeant entaché d'irrégularités et contraire à la loi électorale du Québec. Essentiellement, ils allèguent que leur circonscription disparaît sans qu'ils aient été consultés et qu'ils aient eu l'opportunité de faire valoir leur point de vue, peut-on lire dans la requête. Et on a une très belle photo du pont Jacques-Cartier illuminé en violet, superbe aperçu du futur pont Jacques-Cartier tout en lumière. Les Montréalais et les habitants de la Rive-Sud ont eu droit à un spectacle hier soir alors que le pont Jacques-Cartier s'est illuminé de plusieurs couleurs. Bien qu'il ne s'agisse pour l'instant que d'un aperçu du produit final, le projet avance bon train. Il ne reste plus que 2 mois et 25 jours avant l'illumination totale de la structure à l'occasion du 375e anniversaire de Montréal et du 150e de la Confédération. Et voilà, ça complète la revue de presse du Journal de Montréal.
Au chalet, au bord du lac, d'une éliane dans le salon. Les lumières tamisées, le feu de foyer, la chaleur monte, c'est l'hiver qui fond doucement. Loin de notre quotidien, des chemins. Espoir du monde.
Voix apaisante de Marie-Annick Lépine qu'on a pu découvrir au sein du groupe Les Cowboys Fringants qui nous chantait au chalet.
Fleurs écolo livrées sur demande. J'ai choisi ce texte signé Pierre-Marc Durivage qui a été publié dans la presse le 18 février dernier. Une entreprise montréalaise offre depuis peu un service de livraison de fleurs entièrement écologique, de la cueillette jusqu'au vase. Parce que oui, sous des dehors de verdure fleurie, l'industrie de la fleuristerie n'est pas des plus écologiques. Bon nombre de fleuristes offrent des écofleurs qui sont produites de façon équitable dans le respect des enjeux sociaux et environnementaux. Mais Oursin Fleurs va plus loin. Les fleuristes conservent dans d'immenses réfrigérateurs un maximum de variétés de fleurs, explique la propriétaire Julie Richer. Il y a beaucoup de pertes, d'une part, et ça engendre une importante consommation d'énergie. Je m'efforce donc de travailler avec des fleurs locales. La semaine dernière, 90 % de mes fleurs étaient d'origine canadienne. Évidemment, les bouquets sont ceux du moment. Oursin Fleurs offre ainsi un bouquet par jour. L'offre est pour l'instant limitée du mercredi au vendredi, sauf exception. La composition du bouquet du jour est dévoilée le matin même à 9 h sur Facebook, Instagram ou sur le site Internet. C'est comme l'idée d'un menu du jour au restaurant. On n'a pas le choix, illustre Mme Richer. On prend les commandes et on effectue la livraison entre 13 h et 18 h. Pour l'instant, la capacité de production est réduite. On parle d'une trentaine de bouquets par jour. Il faut donc ne pas trop tarder à passer sa commande. Le service est actuellement limité au cœur de l'île de Montréal. Mais on fait la livraison au bureau. On peut ainsi atteindre les gens de l'extérieur qui travaillent au centre-ville, s'empresse de préciser la fleuriste. C'est au contact du courant américain Slow Flower que Julie Richer a décidé de plaquer son emploi de sommelière pour démarrer sa petite entreprise il y a moins d'un an. Il existe aux États-Unis un mouvement intéressant en ce moment. On voit de plus en plus de fleuristes qui s'approvisionnent des fermes locales. Ils veulent être le plus près possible de leurs produits. Ils ont aussi un souci écologique poussé et ils privilégient un look plus sauvage. L'utilisation de teintures est donc bannie. Les tubes de plastique jetables remplis d'eau sont remplacés par du papier imbibé. Les enveloppes sont faites de cellophane compostable. Quant à la livraison, Oursin Fleurs fait appel à un service qui travaille uniquement à vélo ou en voiture électrique. Je veux aussi proposer un produit qui se distingue par son esthétique, poursuit Julie Richer. Pour l'emballage, j'utilise par exemple des palettes de couleurs monochromes. Je veux ainsi me dissocier de l'allure conventionnelle de nombreux fleuristes. Du haut de mon expérience de moins d'un an, je me sens un peu mal de dire que l'on peut moderniser cette industrie, enchaîne-t-elle en toute humilité. Mais je crois que mon offre est assez différente pour que je puisse trouver mon marché. Et je crois bien qu'il y a une demande. C'était donc un texte de Pierre-Marc Durivage intitulé « Fleurs écolo livrées sur demande ». Thank you. Hommage, salut Raymond et merci. C'est une lettre de Chantal Rivard, élève de sciences physiques, promotion 1992. Ça a été publié dans la section débat de la presse du 19 février. Fin août 1988, je suis une élève de deuxième secondaire et je m'apprête à rencontrer M. Dussault, notre enseignant de sciences physiques. Mais en fait, jamais plus, après la première journée de classe, je l'appellerai M. Dussault. Ce sera Raymond. Pas parce que je venais de prendre l'habitude de tutoyer mes enseignants. D'ailleurs, Raymond sera le seul que je tutoierai, à l'exception de Rosaire, qui fut mon entraîneur de saut en longueur, mais ça, c'est une autre histoire. Mais parce qu'on ne pouvait pas vous voir Raymond, il ne le voulait pas. Raymond était dans la fin vingtaine. Il était daltonien. Ses vêtements n'étaient donc pas souvent agencés, dirais-je ainsi. Raymond était un savant croisement entre Yolande la grenouille de Marc Labrèche et Hubert Reeves, avec qui il partageait une passion pour la terre et une certaine coupe de cheveux. Ses cours de sciences étaient éclatés, drôles, hors du commun, dans la marge. Il avait ce regard incroyable lorsqu'on donnait une mauvaise réponse à l'une de ses questions. Un regard qui disait que tu n'allais pas mourir parce que tu t'étais trompé, mais que tu étais vraiment dans le champ, puis que c'était drôle, entre guillemets, je cite, sacrement. Une face qu'on n'oublie pas. Et cette manie qu'il avait de faire bouger sa pseudo-coupe longueuil lorsqu'il se déplaçait dans les corridors de l'école. Mémorable. Un enseignant d'exception à qui j'ai joué les pires tours. Pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce qu'il riait toujours de bon cœur à mes douces niaiseries. Raymond a fait de moi, du moins en partie, la prof que je suis devenue. Je vous assure, je vous rassure, je n'ai pas la coupe longueuil de Raymond et je porte des chaussettes de la même couleur, du moins la plupart du temps. Ce que Raymond m'a légué, c'est cette possibilité de me savoir différente, de faire les choses autrement, d'être une enseignante compétente, mais capable d'une grande autodérision. Il m'a permis d'être moi, d'être différente, d'assumer mon goût, d'être originale. Non pas pour provoquer, mais pour créer ce lien particulier avec les élèves. Un lien qui se développe parce qu'on présente à nos élèves ce qu'on a de plus vrai, de plus authentique. Il m'aura également appris à apprendre parce que, savez-vous quoi? On se trompe lorsqu'on apprend. Bien oui! Avant même qu'Alexandre Despatie se prenne des flattes sur la bedaine en pratiquant ses plongeons, j'avais appris en 1988 que de me tromper faisait partie du processus d'apprentissage. Parce que Raymond rigolait lorsqu'on se trompait, oh, ce qu'il rigolait! Il nous a appris à rire de l'erreur et à recommencer sans avoir peur. À l'automne, Raymond nous a annoncé qu'il avait un cancer en phase terminale. Il n'était pas encore à la retraite. Et la grande faucheuse avait décidé que le prof de sciences devait tirer sa révérence avant son temps. Ce que je trouve le plus regrettable, c'est d'admettre que plusieurs générations d'élèves qui auraient dû connaître Raymond ne le connaîtront pas. Elles ne verront pas son visage se crisper en entendant une élève donner une mauvaise réponse. Elles n'entendront pas son rire si communicatif. Elles ne goûteront pas à son sens de la répartie exemplaire. Elles ne sauront pas qui est Raymond. Raymond nous a tellement marqués que nous sommes plusieurs anciennes élèves à nous relayer à son chevet pour l'aider à faire le dernier bout. Nous sommes plusieurs à nous presser à son chevet pour qu'il nous fasse encore sa face de Yolande et qu'il nous raconte encore ses anecdotes de science. Et lorsqu'on entre dans sa chambre, on ne peut que voir ses grands albums photos où nous figurons toutes. Raymond a des anecdotes pour chacune de nous. Sa vie de prof est dans ses albums. En fait, toute sa vie est dans ses albums. Raymond n'a pas eu d'enfant, mais il nous a eus, nous, toutes. Des générations de filles qu'il aura initiées aux sciences, à qui il aura ouvert les portes de ce domaine, et ce, à une époque où les facultés de sciences étaient encore le domaine presque exclusif des hommes. Raymond, d'ici quelques semaines, tu vas partir vers tes cumulonimbus, ou les autres nuages dont le nom m'échappe. Tu m'excuseras de ne pas avoir tout retenu de tes cours, mais après tout, je suis devenue enseignante de sciences humaines. Tu nous auras tellement marqués. Tu n'as pas idée. Tu auras participé significativement à faire de Julie M, de Mireille D, de Chantal B, d'Annick G, de Céline R, de Nathalie M, de Julie B, de Gabrielle R, de Geneviève B, de Sonia L et de milliers d'autres, ce que nous sommes devenus. Raymond, bonne route, pars en sachant que tu accomplis beaucoup, beaucoup plus que tu ne le penses. Puis lorsque tu arriveras où tu arriveras, n'oublie pas de leur rappeler que tu es daltonien et que c'est pour ça que tes chaussettes ne sont pas de la même couleur. Je t'embrasse. Alors, on voit une photo de Chantal Rivard aux côtés de Raymond Dussault lors des retrouvailles en 2015. Un texte publié dans la section débat de la presse du 19 février. Salut Raymond et merci. Texte de Chantal Rivard, je vous le rappelle, élève de sciences physiques, promotion 1992. On se retrouve après la pause et la chanson avec les actualités internationales, culturelles et la tournée des journaux régionaux.
Tell me, where did he come from? Then I know where to go. Mama says, look really hard, then you always find what you lost. She says, he's never far, he goes out and works hard. Mama says, working is good, no ungodly company, true. Where are you, Papa? Tell me where, Papa? Without having to show to you.
Papa,
le groupe néerlandais Cut qui reprend Papa Outé de Stromae.
Les actualités internationales, je commence avec une bonne nouvelle, c'est rare. Année record pour le tourisme au Canada. Le Canada a accueilli l'an dernier un nombre record de voyageurs depuis l'importante récession économique en 2008, notamment grâce à la faible valeur de sa devise. Au total, plus de 30 millions de voyageurs ont franchi les frontières canadiennes en 2016, une augmentation de près de 10 % comparativement à l'année précédente. Cette lancée est principalement due à nos voisins américains qui représentent pas moins de 4 voyageurs sur 5 au Canada, selon de nouvelles données publiées hier par Statistique Canada. Sous l'effet combiné de la prospérité économique des États-Unis et de la vigueur du dollar américain, le nombre de voyageurs des États-Unis au Canada a augmenté de 8,3 % par rapport à 2015. Or, cet intérêt grandissant n'est pas réciproque. Pour une troisième année de suite, les Canadiens ont coupé dans leur voyage aux États-Unis, même si ce pays demeure la destination de choix 75 % du temps. Depuis 2013, dernière année où le dollar canadien a atteint la parité avec le dollar américain, le nombre de voyages effectués en voiture par les Canadiens aux États-Unis a diminué de 31,3 %, écrit-on dans le rapport. Le Canada a également réussi à attirer un nombre record historique de voyageurs outre-mer en 2016, vante Statistique Canada. Cette situation est aussi vraie pour le Québec, qui n'a jamais accueilli autant de voyageurs provenant d'ailleurs que les États-Unis à ses postes frontaliers. Ce sont d'ailleurs les voyageurs asiatiques et européens qui se sont tournés vers le Canada en plus grand nombre l'an dernier, indique le rapport. Au sommet du palmarès trônent le Royaume-Uni et la Chine, qui ont envoyé un total de 1,5 million de voyageurs au Canada l'an dernier. Pas tout à fait le même résultat en France. Paris a perdu 1 million de touristes. En 2016, Paris et la région parisienne ont perdu 1,5 million de touristes en 2016 à la suite des attentats. Les visiteurs chinois et japonais ayant notamment fait défaut, a annoncé hier le comité régional du tourisme. Le manque à gagner est estimé à près de 1,3 milliard d'euros, selon le bilan annuel du CRT. Avec près de 31 millions d'arrivées hôtelières en 2016, la fréquentation de la destination Paris-Île-de-France a chuté de 4,7 % par rapport à 2015 du fait de la baisse des clientèles internationales, 8,8 %. Par ailleurs, 3 hommes soupçonnés de projeter un attentat ont été arrêtés hier par les services antiterroristes français en région parisienne à Marseille et à Clermont-Ferrand, selon des sources proches de l'enquête. Amnesty dénonce la propagation de la haine des dirigeants du monde entier, comme Donald Trump aux États-Unis propage des discours de haine diabolisant certains groupes, une rhétorique toxique qui rend le monde plus dangereux, s'alarme Amnesty International. Les discours clivants de Donald Trump, Viktor Orban, Hongrie, Erdogan, Turquie, Rodrigo Duterte, Philippines, s'acharnent sur des groupes entiers de population, les désignent comme boucs émissaires et propagent l'idée selon laquelle certaines personnes sont moins humaines que d'autres. Les premiers visés étant les réfugiés, dénonce Amnesty International. Au total, l'ONG a dénombré 36 pays ayant violé le droit international en renvoyant illégalement des réfugiés dans des pays où leurs droits étaient menacés. Le plus vieux dirigeant en exercice de la planète, le président zimbabwéen Robert Mugabe, a célébré mardi ses 93 ans en répétant sa ferme intention de continuer à régner sans partage sur le pays malgré le poids de plus en plus évident de son âge. Depuis quelques années, son état de santé est un sujet intarissable de rumeurs que ses visites régulières à Singapour ou à Dubaï pour se faire soigner entretiennent régulièrement. En 2015, plusieurs chutes en public ont fait planer le doute sur ses capacités. La même année, il a lu devant le Parlement un discours parfaitement identique à celui qu'il avait prononcé un mois plus tôt, manifestement sans s'en apercevoir. Les prochaines élections présidentielles auront lieu en 2018. Quatre nouvelles espèces de grenouilles miniatures suffisamment petites pour tenir sur un ongle ont été découvertes dans une zone montagneuse du sud de l'Inde. Les scientifiques à l'origine de cette avancée ont passé 5 années à étudier la faune luxuriante de la chaîne de montagnes des Ghâts occidentaux. Ces grenouilles miniatures mesurent jusqu'à 15,4 mm et vivent dans la végétation forestière humide. L'équipe a également fait état de la découverte de 3 autres espèces de grenouilles nocturnes. Hommage dansé à Leonard Cohen pour commencer ses actualités culturelles. Les Ballets Jazz de Montréal présenteront du 5 au 9 décembre prochain à la Place des Arts Dance Me, un hommage dansé au défunt poète, artiste et auteur-compositeur montréalais Leonard Cohen, qui s'inscrit dans le cadre de la programmation de Danse Danse et des célébrations du 375e anniversaire de Montréal. Cette création prendra vie à travers une série de tableau. Les BJM, donc les Ballets Jazz de Montréal, ont reçu l'appui de Leonard Cohen lui-même avant sa mort et la compagnie a obtenu les droits exclusifs en danse et art circassien durant 5 ans pour l'utilisation de ses chansons, de son image, de son nom, de sa personnalité, de ses œuvres visuelles et littéraires, et ce, dans le monde entier. Par la suite, le spectacle sera notamment présenté au Sony Center de Toronto, puis au Centre national des arts d'Ottawa. Le vétéran Tom Petty et son groupe The Heartbreakers clôtureront une programmation des plus variées au prochain Blues Fest d'Ottawa. Tom Petty et compagnie monteront sur scène le dernier soir du festival qui se déroulera du 6 au 16 juillet sur les plaines Le Breton. La programmation inclut des spectacles de Toby Keith et du Sam Roberts Band le soir de l'ouverture, puis de Melissa Etheridge le lendemain. Parmi les autres artistes invités, on note Pink, Muse, 50 Cent, Flume, Justin Moore et LCD Sound System. Les billets seront mis en pré-vente jeudi, donc demain matin à 10h. La programmation complète et les informations sur les billets se trouvent sur le site du Blues Fest d'Ottawa. Chronique d'Hugo Dumas. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai arrêté de comptabiliser après 400. J'exagère à peine. Le nombre de vos plaintes qui découlent de répliques inaudibles dans les téléséries québécoises, tout réseau confondu. On ne comprend rien quand les acteurs parlent. La musique enterre leur dialogue. Plus personne n'articule correctement au petit écran. Les variations sur ce même thème obstruent ma boîte de courriel depuis plusieurs mois déjà. Soit la population de la province vieillit et souffre de problèmes d'audition de plus en plus aigus ou graves, soit la qualité du son se dégrade réellement dans les émissions conçues chez nous. Personnellement, ça n'empoisonne pas mon écoute ni ne gâche mon plaisir, mais à vous lire, c'est un irritant majeur, une source de frustration constante. Chers lecteurs à l'oreille sensible ou capricieuse, vous n'êtes pas seul ni sourd. Le phénomène du marmonnage gangrène aussi la télé britannique, selon le Guardian. La BBC reçoit actuellement une avalanche de récriminations à propos de sa nouvelle série Uchronique SSGB, qui se résume à « Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas compris. Recule! » Les émissions Happy Valley, Broadchurch et Tabou ont suscité le même type de remarques de téléspectateurs irrités et forcés d'activer les sous-titres dans leur langue maternelle, comme quoi le marmonnage surmonte toutes les barrières linguistiques. Outre la diction molle des interprètes, d'autres raisons expliquent cette tendance qui fâche bien des gens. D'abord, les téléviseurs à écran plat disposent de beaucoup moins d'espace que les vieux appareils cathodiques pour intégrer des haut-parleurs de qualité. L'image est d'une clarté quasi parfaite, le son beaucoup moins, à moins d'acheter de l'équipement audio supplémentaire, évidemment. Par souci de réalisme, plusieurs réalisateurs dirigent leurs acteurs pour qu'ils parlent comme dans la vraie vie. Admettons-le, au quotidien, personne ne s'exprime en détachant chacune des syllabes et en projetant sa voix comme un membre de la distribution de la dernière pièce du TNM. On escamote des mots, on s'enfarge et notre débit est souvent hyper rapide. L'ajout d'une trame musicale en post-production touche également l'ensemble de l'œuvre. Il suffit d'une note trop forte à un passage précis pour que l'on perde le fil. C'est toujours déplaisant. En entrevue avec René Aumirois à Culture Club, il y a 10 jours, Michel Dumont a rappelé que la première politesse pour un acteur, c'est de se faire comprendre et entendre de son public. Il n'a pas tort là-dessus. Pour le Telegraph de Londres, cette recrudescence du « mumbling » démontre l'importance pour les interprètes de se doter d'une formation en théâtre classique. Question d'apprendre à bien prononcer les phrases. En excluant les débuts de District 31 en septembre, Radio-Canada n'a pas constaté une hausse des plaintes à propos du son déficient dans ses téléséries. Chez TVA, la porte-parole Véronique Mercier a décliné notre demande d'entrevue à ce sujet. C'est une partie de la chronique d'Hugo Dumas d'aujourd'hui dans la presse. Les journaux régionaux, maintenant, je vais vous lire la chronique « Une histoire touchante » signée Denis Graton dans Le Droit d'aujourd'hui, « La fusée d'Anna Maude ». Donc, une chronique « La fillette appelle les chevreuils ses bébés ». On voit la petite Anna Maude Benoît, 3 ans, et sa mère Maude Gaumont. Anna Maude a 3 ans. Et de la fenêtre du salon de sa maison à la campagne, à Mayo, elle peut regarder pendant de longues minutes les chevreuils qui s'attroupent à l'extérieur pour se disputer les carottes qu'elle aura laissées dans la neige. Puis, après la visite de ses bébés, Anna Maude se glissera avec maman à l'intérieur de sa fusée où les deux passeront plus d'une heure ensemble à jouer, à dessiner et à dormir parfois. La fusée d'Anna Maude est en fait une chambre hyperbare, une chambre de la forme d'un long tube, d'une fusée quoi, dans laquelle la fillette de 3 ans doit passer 90 minutes par jour afin que les cellules de son cerveau et de son corps se régénèrent. Anna Maude Benoît est atteinte de dyspraxie, une rare maladie neurologique présente à différents degrés chez environ 6 % des enfants. Il s'agit d'un handicap invisible et subtil puisque l'enfant semble normal alors que rien dans sa jeune vie est normal. Maude Gaumont, 27 ans, la mère d'Anna Maude, explique dans ses mots la maladie de sa fille. La dyspraxie affecte la capacité à planifier, à organiser et à automatiser les gestes moteurs pour réaliser une action, dit-elle. Ce que sont des gestes automatiques pour nous ne le sont pas pour Anna Maude. Pour elle, les moindres gestes, comme simplement marcher, sont à réapprendre chaque jour. Quand ma fille essaie de parler, c'est comme si son cerveau oubliait comment faire d'une fois à l'autre. Donc, ses mots disparaissent ou se modifient. Et souvent, elle doit me parler par signe pour se faire comprendre. Même le simple fait de manger peut être compliqué pour Anna Maude, poursuit-elle. Son cerveau ne comprend pas d'une fois à l'autre comment placer la langue, ce qui fait qu'elle a de la difficulté à avaler. Anna Maude est très intelligente et elle comprend ce qu'on lui dit ou ce qu'on lui demande. Mais cette maladie neurologique qu'elle a, à un degré sévère, crée toutes ces distorsions en elle. Maude Gaumont a dû quitter son emploi comme photographe professionnelle pour rester à la maison avec sa plus jeune fille. Elle et son conjoint Patrick Benoît sont aussi parents d'une fille de 5 ans, Zoé, qui est en pleine santé. Ce n'est pas une question de choix pour cette jeune mère de famille. Sa fille de 3 ans doit aller en orthophonie chaque semaine, en ergothérapie aux 3 semaines et chez le neurologue aux 3 mois. Et c'est sans parler de tous les autres rendez-vous médicaux et des services quotidiens à faire à la maison. Mais ce qui aide grandement Anna Maude depuis quelques jours, c'est cette chambre hyperbare, sa fusée comme elle l'appelle, que ses parents ont louée pour un traitement de 40 jours. Une location qui a coûté 3 700 $ et que le jeune couple a pu se permettre grâce à l'aide financière de leurs proches. On voit déjà du progrès chez Anna Maude depuis qu'on a cette chambre hyperbare, affirme Maude. Cette chambre permet aux cellules de se régénérer et Anna Maude parle un peu plus, elle mange mieux et elle dort beaucoup mieux depuis que nous avons cet appareil. Les changements chez Anna Maude sont énormes. Maude et son conjoint aimeraient bien se procurer une chambre hyperbare plutôt que d'en louer une temporairement. Mais ces jeunes parents de 2 enfants n'ont tout simplement pas les 22 000 $ requis pour cet achat. Ce n'est donc pas par choix qu'ils doivent aujourd'hui tendre la main et compter sur la générosité du public pour pouvoir offrir à leur fille de 3 ans une fusée qui ne décollerait jamais de la maison. Si vous pouvez les aider, www.onedollargift.com et tapez une chambre hyperbare pour Anna Maude ou pour joindre Maude Gaumont, Denis Graton donne le numéro de téléphone 819-281-0125. La dyspraxie sera toujours là, dit Maude. Il n'y a pas de remède miracle pour cette maladie. Et ce ne sera pas facile pour Anna Maude. Ma fille devra faire face à d'innombrables défis toute sa vie, mais cette chambre hyperbare lui permettra de devenir le plus autonome possible. Et elle l'aidera à franchir toutes les montagnes qui se dresseront sur sa route au cours de sa vie. Dans le Nouvelliste, aujourd'hui texte de Brigitte Trahan, l'Observatoire de Champlain fermé au public. L'Observatoire astronomique du Cégep de Trois-Rivières ne sera pas ouvert au grand public l'été prochain, mais l'infrastructure conservera néanmoins son statut de laboratoire pédagogique. La décision de suspendre les activités pour cette année a été prise par la direction du Cégep pour des raisons de coût, mais surtout d'absence du financement récurrent nécessaire. Considérant le caractère vieillissant de cet immeuble et les frais importants que le Cégep devrait engager pour rendre ce bâtiment attrayant et sécuritaire pour le public, la direction du Cégep a pris la décision de suspendre les activités pour l'été 2017, a indiqué l'institution mardi par voie de communiqué. L'escalier en bois qui mène à l'entrée, de même que la terrasse, sont à refaire pour des questions d'esthétique et de sécurité, indique le directeur des études du Cégep, Denis Rousseau. Il y a aussi d'autres travaux nécessaires au niveau du stationnement, notamment pour rendre l'endroit plus attrayant. Fermé en 2015 par manque de financement, l'Observatoire avait été rouvert en 2016 et sa gestion avait été confiée pour la première fois à la même équipe qui s'occupe du vieux presbytère de Batiscan, du moulin seigneurial et du domaine seigneurial. Le résultat fut probant puisqu'environ 900 visiteurs se sont présentés à l'observatoire à l'été 2016, alors qu'on en comptait en moyenne 400 par été habituellement, indique Alain Bourbonnais, le responsable de l'équipe de gestion de ces infrastructures touristiques dans la MRC des Chenaux. Les revenus, eux, ont été de 6 000 $, soit mieux que les années précédentes. Malgré tout, le maintien de cette infrastructure régionale devenait difficile dans le contexte budgétaire actuel, plaide le Cégep. Ce n'est pas la première fois que l'observatoire du Cégep, qui fut construit en 1980, se voit contraint de fermer ses portes. C'est en 1997 qu'il le fait pour la première fois, faute de financement. En 2001, l'Observatoire est reconnu comme institution muséale par le ministère de la Culture et des Communications, mais le site sera fermé au public en 2004, 2005 et 2006, toujours pour des questions budgétaires. L'Observatoire, indique M. Rousseau, est d'abord un laboratoire pour un cours d'astrophysique. Si on avait une spécialité en astrophysique et qu'on donnait 25 ou 30 cours, ce serait autre chose, mais on donne un cours là-bas, explique-t-il. Lutte aux violences sexuelles, Sherbrooke a le désir et la compétence. Texte de Mélanie Noël, La Tribune, je vous en lis quelques passages. Prévention et sensibilisation, gestion des plaintes et accompagnement des victimes, sécurité des gens, voilà les grands thèmes sur lesquels se sont penchés les nombreux participants à la journée de réflexion, ayant pour objectif de prévenir les violences sexuelles sur les campus. La réflexion s'est faite à l'Université de Sherbrooke, dans le cadre d'une tournée régionale de consultation initiée par la ministre de l'Enseignement supérieur, Hélène David. Éclairage des lieux à risque, formation de première ligne, mise sur pied de comités d'intervention rapide accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Inclusion de la politique de tolérance zéro dans le plan de cours au même titre que la politique liée au plagiat. Verrouillage des classes et cubicules non utilisés lors d'activités sociales telles qu'un 5 à 7. Augmentation du nombre de femmes intervenantes. Sondage récurrent. Plusieurs suggestions concrètes ont été faites par les communautés collégiales et universitaires en vue de l'élaboration de la politique et la loi cadre pour prévenir les violences sexuelles sur les campus. L'importance de publiciser la politique lorsqu'elle sera adoptée, de s'assurer qu'elle soit bien appliquée et comprise par tous les membres de la communauté et d'identifier des personnes responsables de la politique sur chacun des campus a été soulignée. La tournée avait commencé à Saguenay. Après son arrêt à Sherbrooke, elle se poursuivra à Québec, Gatineau et Montréal. Alors, c'est ainsi que s'achève l'émission d'aujourd'hui. Un grand merci d'avoir été à l'écoute et j'espère vous retrouver demain à 9h pour l'émission Les Voix de Service Magazine avec les collaborateurs du jeudi. Une nouvelle collaboratrice demain, j'aurai le plaisir de vous la présenter. Et puis ensuite, ce sera l'émission Les Voix de Service Quotidien. Merci beaucoup Jean-Sébastien La Liberté à la mise en onde et au choix musical. Ici Hélène Denis. Je vous retrouve donc demain dès 9h. Bonne journée.